cours de philosophie politique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard, le 20 février 1993.
J'aimerais presque mieux répondre à des questions. Parce que on va pas faire un cours magistral sur quelque chose qui est en pleine recherche. Alors je fais quelques remarques et puis après je demanderai s'il y a des questions. Ça me semble plus important. Parce qu'au fond, c'est un chantier qu'on ouvre. Et je crois que comme il n'y a pas de cours pour le moment, je l'ai fait pendant une année ou deux ans, un cours sur la philosophie politique, indépendant d'Aristote, essayer de voir un peu ce qu'on peut dire sur ceux qui ont écrit sur la philosophie politique. C'est un chantier, je crois que c'est bien de garder un chantier comme ça. Et de greffer là-dessus toute une série de questions qui demeurent. Alors, je crois que la première chose qu'on doit voir, du moins, quand j'avais fait cette étude, c'était ce qui m'avait impressionné le plus. Combien la conception de la famille d'Aristote à nos jours a changé énormément. Ça explique des quantités de choses. Parce que c'est quand même, je crois, quand on parle du point de vue de philosophie politique, il faut toujours commencer par la famille. C'est naturel. Même si aujourd'hui, on veut dire que le couple, ce n'est plus naturel. C'est conventionnel. C'est ce qu'on veut faire croire au bon peuple français et à l'Europe. voyez, comme l'outil est devenu quelque chose d'énorme, comme investissement. Quand vous voyez le TGV, c'est un outil, c'est évident. Et il y a tout, tout à la taille des grandes, des très grandes sociétés. L'aviation, les usines d'aviation, de tout, les usines de chimie, point de vue nucléaire, en Suisse, on voit ça de façon remarquable, les très grosses sociétés. Alors, le travail s'est modifié à cause de l'outil. Ça, c'est évident. Et l'équilibre a changé complètement. Et alors, je crois que l'économie est analogiquement fait changer ce que représente le bien commun. Comme l'outil modifie le travail, l'économie modifie, je ne dis pas change, d'espèce, mais modifie et fait que ça devient beaucoup plus complexe. Premier élément, deuxième élément de modification. Avec le christianisme, le développement de la personne, alors là aussi, au point de vue philosophique, il ne faut pas dire que la personne n'existait pas avant le christianisme, c'est faux. Il ne faut surtout pas dire ça. La personne, elle existe chez Aristote, l'amour d'amitié. Elle a pris un mot propre avec les stoïciens et le néoplatonisme. Le mot prosopone et les stoïciens. Et le christianisme a mis un développement théologique sur la personne. À quoi ces grands dogmes chrétiens, énorme. Or, tout de suite, avec la personne, on l'a souligné du reste ce matin, tout de suite, le problème du bien commun se pose très différemment. Vous voyez, on l'a dit et on l'a redit, et il y a quelque chose de très juste, il ne faut pas exagérer. On a dit, il y a la morale de la nature. Et la morale de la personne. Bon, il faut distinguer, mais il ne faut pas séparer. Parce que j'ai entendu ça à Fribourg, moi. C'était constant, et les querelles, il y a eu des querelles énormes là-dessus. Sur ce panthéon, en faculté de théologie, j'étais dedans, j'enseignais la philo. Alors un jour, je dis quand même, en philosophie, je dis, écoutez, on peut essayer de distinguer. Alors on me dit, vous n'êtes pas théologien. Je dis, je suis philosophe et chrétien, donc je suis théologien. Et je suis peut-être plus théologien que vous. Je n'enseigne pas la philosophie, la théologie, mais c'est vrai. Le problème de la personne et la nature, vous comprenez, le bien commun est lié, au fond, historiquement, plus à la nature. Parce que la communauté, c'est la nature. C'est le fondement de la communauté. Ce qu'on veut rayer, puisqu'on ne veut plus regarder la nature. Parce qu'on ne veut plus regarder la communauté de la famille comme la communauté fondamentale. C'est très nouveau. Et avoir l'audace de faire passer ça pour la loi. C'est la destruction du droit public, du droit français. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et alors ça se fait vite avant les élections. Hein. Parce que c'est beaucoup plus difficile après d'enlever. C'est passé. On a discuté ici pour ces lois. Et c'est grave. Les évêques voyez, ça fait aussi un très grand changement. Les rapports de nature et personne sont très bouleversés. Alors, ça, j'explique comment le problème aujourd'hui se pose d'une façon très différente sous ce point de vue-là. Troisième problème avec le problème politique et religion, on l'a soulevé aussi. On est devant, de plus en plus, devant des politiques laïques. On est étonné quand un chef d'État nomme Dieu. En Europe, ça se fait plus beaucoup, à part le roi des Belges, qui lui a l'audace et le courage de le dire. En Amérique, de temps en temps aussi, mais d'une façon très libérale. Il n'a peut-être pas tout à fait la même sonorité religieuse. Alors, on est donc là aussi en face d'un problème nouveau de cette libération de l'aspect politique sous l'influence économique, puisque l'économie joue un rôle de plus en plus grand. Sous l'influence économique, l'économie n'est pas religieuse, hein. Tout le monde le sait. Depuis que Jésus a pris le fouet pour chasser les vendeurs du temple, c'est significatif. Vous voyez, il y a trois facteurs qui, je crois, doivent être tout le temps présents pour nous. Alors, je vais le reprendre, si vous voulez, pour que nous essayions voir quelque chose dans ce domaine. La famille a pris, avec le point de vue chrétien, un caractère beaucoup plus sacré, puisque il y a le sacrement. Et la famille n'étant plus la mesure de l'économie. D'une certaine manière, elle est devenue plus personnelle. Et vous voyez, Jésus lui-même, dans l'Évangile, rappelle qu'il faut revenir à la source et que ça avait été abîmé en fonction de certaines contraintes. Et je crois que c'est ce que nous voyons aujourd'hui, quand nous essayons de comprendre ce que l'Église dit à propos de la famille, à propos de la procréation, à propos de la fécondité artificielle. Quand on regarde ça attentivement, et on doit le regarder, et on doit le regarder au plan philosophique comme au plan théologique, ce qu'on vous a... ne cesse de demander des explications et ce sera de plus en plus comme ça. Il faut comprendre que cette conduite de l'Esprit Saint dans l'Église, c'est pour nous faire comprendre de plus en plus l'importance du lien de l'époux et de l'épouse au niveau amitié. Au point de vue charité fraternelle. C'est ça que l'Église veut avant tout sauvegarder. Et c'est cela que saint Thomas, quand il a traité du mariage de Marie et de Joseph, c'est là où saint Thomas est le plus net. C'est le modèle. Il dit, il y a un vrai mariage parce qu'il y a la plus grande amitié. C'est l'amitié qui constitue le mariage, au point de vue humain comme au point de vue chrétien. Ça, c'est très très important, vous voyez, parce que ça met le côté personnel dans une très grande lumière. C'est très étonnant. religieux et chrétien demeure encore au niveau communautaire et que c'est le fondement de toute communauté humaine. Ça, je crois qu'on doit le maintenir coûte que coûte. Ça me semble très très important. C'est dans cette perspective-là que nous pouvons essayer de comprendre comment le point de vue politique, d'une certaine manière, est au service de la famille. Alors que je ne dirais pas que la famille est au service de la politique. Je ne crois pas, comme famille, elle a sa finalité propre. Ce sont les individus de la famille qui doivent être attentifs à l'aspect politique. Mais l'aspect politique doit, c'est un devoir. Une politique qui ne s'occupe plus de la famille ou qui s'en occupe pour la détruire, elle est condamnable. Je ne peux pas, en tant que chrétien, voter pour un parti politique qui détruit la famille. On y coopérerait en votant. Il y a deux principes qui nous permettent de voir comment on doit voter. Et ça, c'est ici je fais un point de vue philosophique, ce n'est pas du tout pour vous influencer, c'est pour vous éclairer. Et puis ça fait partie de ce que nous essayons de comprendre, qu'est-ce que c'est que le bien commun. La liberté d'enseignement et le point de vue de la famille. L'État doit être au service de la famille, l'aider, c'est-à-dire la soutenir. Et dès qu'il y a un point de vue de destruction de la famille, on peut tout de suite dire, c'est faux. Il y a là quelque chose dont on doit être très attentif, ça, là-dessus, comme l'éducation. Parce que l'éducation première est familiale. Et les parents ont un droit sur l'éducation de leur enfant. C'est pas l'État qui a un droit premier. Là, il y a l'exagération. Parce que c'est pas l'État qui a porté l'enfant. Évidemment, il a tendance aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il favorise énormément la fécondation artificielle. On a tous les subsides possibles, là. Ça, je le sais. À tel point que un prêtre que je connais diocèse de Lyon, qui au moment des grands tremblements de terre apocalyptiques, il avait quitté son sacerdoce. Il avait quitté, il l'a laissé. Puis progressé. Alors à ce moment-là, comme beaucoup de prêtres comme ça qui quittaient, on fait des études psychanalytiques. Ça, c'était Freud, le nouveau pasteur. C'est un bon père jésuite. J'ai deux amours, Ignace, Freud. Et sur cette table, il y avait Ignace et Freud. Je le connais très bien, c'est un ami. Mais pas dans son amitié. C'est pas les amis de vos amis, c'est son ami. Hein. C'est ça là, non. Ça ne passe pas là-bas. Mais ce prêtre est rentré maintenant dans le giron de l'église et le cardinal lui a permis de continuer ses études, donc de rester un petit peu en dehors. Alors il s'est mis à faire une thèse psychanalytique pour sa psychanalyse, pour avoir le diplôme. Il a étudié les répercussions sur le foyer de la fécondation artificielle. Il a vu 100 cas. Quand il m'a dit qu'il avait fait le sujet de cette thèse, de son étude, je lui dis bravo. Il me dit, vous êtes le premier prêtre qui me dit ça. Jusqu'à l'homme, il me dit, qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, mais c'est très important, c'est le sujet capital aujourd'hui. C'est ça qui va détruire la famille. Plus ou moins rapidement, mais ça va détruire la famille, vous allez voir. Alors il m'a dit, oui, c'est ce que je crois. Alors il a vu 100 cas. Et sur les 100 cas, toujours, tôt ou tard, il y a un silence qui s'établit au sein de la famille. c'est source de divorce. Alors il a établi ça tout simplement. Alors on est venu, les gros patrons de la médecine à Lyon sont venus lui dire, surtout n'éditez pas votre thèse. Si vous l'éditez, on vous cassera. Parce que c'est trop grave, ce que vous faites. Elle dit, mais quoi, c'est la vérité, c'est un fait, quoi. Il faut quand même mettre les gens en face de ça. Elle dit, non, surtout pas, parce qu'on va nous supprimer les subsides. C'est toujours intéressant de voir, vous voyez, l'aspect machiavélique par derrière.
Parce que je crois que c'est quand même un point de vue qui va très...
c'est bien pour vous, ça, en raison de votre situation. L'autre dira, en raison de votre situation, vous serez dans une autre situation, vous direz tout à fait autre chose. Tandis que le point de vue de la nature donne un bien objectif. Puisque le point de vue de la personne, c'est le point de vue de l'exercice. Et si la nature n'est plus là, ben oui, chacun choisit sa fin. Et chaque citoyen a sa notion de bien commun. Mon bien-être. Tandis que quand la nature a encore son mot à dire et que ça existe, à ce moment-là, on peut établir une hiérarchie de bien. Vous ne pouvez pas établir une hiérarchie de bien sans la nature. Personnel, je suis libre de faire ça, oui. C'est la question qui avait été posée dans un état d'Amérique, des États-Unis. Est-ce que on peut avoir un culte satanique? Et ça a été répondu, je ne sais plus dans quel état, mais ça a été répondu, on me l'a dit quand j'avais été là-bas, au Texas. On a répondu, il n'y a pas de raison que le démon n'ait pas son culte. C'est une personne. Il a le droit d'avoir son culte. Oui, bon, ça c'est une réponse purement d'un libéralisme qui repose sur la personne. Chacun a son bien, son orientation. Le démon a la sienne. Respectez-le. Il vaut mieux se mettre bien avec lui que mal, parce qu'il a un grand pouvoir. Eh bien, il y a beaucoup de pactes sataniques qui sont dans ce sens-là. Je donne ça comme exemple, parce que ça montre comment la notion du bien commun disparaît dans la mesure même où nous sommes dans un libéralisme absolu, où il n'y a plus que la personne et la nature disparaît. C'est pour la recherche du bien commun. Le bien commun existe dès qu'il y a communauté. Il y a le bien commun de la famille. Et donc c'est à l'égard de la famille, puisque c'est la communauté première qu'on doit le regarder. Puisque je dois toujours, au point de vue philosophique, surtout quand je suis en face des notions difficiles, je regarde le bien commun de la communauté la plus facile à comprendre, et la plus naturelle. Et donc, dans la famille, le bien commun est le plus net. Et vous voyez bien que dans la famille, le bien commun c'est quoi ? L'amour des conjoints. Ça fait partie du bien commun de la famille, hein, parce que quand il n'y a plus d'amour entre les conjoints, c'est la lutte perpétuelle et la rivalité. Les enfants et l'éducation des enfants. Et pour cela, suffisamment au point de vue économique, suffisamment d'argent et de nourriture pour élever la famille, pour que la famille ait son autonomie. Alors évidemment, au point de vue économique, surtout maintenant, elle dépend de l'État. Et si elle dépend de l'État au point de vue économique, très facilement, on se sert de ça pour l'intrusion au point de vue éducation. Au point de vue instruction et éducation. S'il n'y a pas d'enfant. C'est très curieux. curieux, c'est la famille, la communauté ou les deux, ce qui montre, je crois, le caractère très puissant de la famille. Parce que c'est la communauté.
Ce que n'a jamais fait le marxisme.
et la colonisation économique impose la langue. Alors c'est pas étonnant qu'aux élections, on retourne au marxisme. On a été d'une maladresse invraisemblable. On a colonisé par le point de vue économique. Les gens sont très, très, très... C'est normal qu'ils soient très sensibles pour la question de la langue. Ça touche le peuple, ça touche tout le monde. Alors, vous voyez, quand un État ne peut plus avoir, au point de vue économique, le standing qu'il faut aujourd'hui, il devient indépendant. Et alors, le bien commun n'a plus sa qualité. Il ne peut plus, puisqu'il ne peut plus permettre à la famille de vivre. Il y a tout de suite. Vous voyez, c'est l'aspect négatif qui fait mieux comprendre ce que c'est que le bien commun. Toujours, hein, quand vous avez une chose qui transcende un peu, c'est toujours l'aspect négatif qui fait le mieux comprendre. C'est quand le bien commun devient vraiment à sec, en dessous du niveau de la mer, qu'un État a des dettes énormes à l'égard des autres États, et qu'il dépend des autres États, il est téléguidé. Et donc on perd l'originalité de l'autarcie. L'autarcie donne l'originalité à chaque pays. Chaque pays a quelque chose à dire d'unique. Et c'est ça, c'est la mentalité, le bien commun. Vous voyez, c'est l'originalité d'un pays. Dans sa culture. C'est pour ça que la culture fait partie du bien commun, ça c'est bien évident. L'art fait partie du bien commun. Parce que c'est le zen, la détente. Surtout aujourd'hui, vous voyez. Dans le temps, il n'y avait pas de vacances payées. Ça n'existait pas, c'est assez récent. Aujourd'hui, il y a ça. Donc, ça exige d'un pays, mais de favoriser les détentes, les possibilités de se rendre au repos dans le pays ou en dehors du pays, si vous voulez. Mais ça fait quelque chose de très nouveau, comme l'équilibre d'un pays, ça. Alors, vous voyez, le bien commun, c'est donc le fait que dès que vous êtes trois ou deux dans le mariage, dès que vous êtes trois, ce qui est fait par les trois est plus que ce qui est fait par un. Et donc l'œuvre de trois transcende chaque individu. C'est bien évident. Et plus l'œuvre est réalisée par l'ensemble des citoyens, ou une partie des citoyens, il y a quelque chose qui s'impose. Ce n'est plus le bien d'un seul individu. Quand je fais quelque chose seul, c'est mon bien. Quand je fais à plusieurs, c'est le bien de tous. Alors, c'est là où il faut essayer de comprendre. Le bien commun, c'est donc ce qu'on a fait. La culture, la recherche de la vérité, l'art qu'on a fait ensemble, tous les investissements qui ont pu se faire grâce à une certaine richesse d'un pays, qui a pu maintenir une culture plus développée. Et puis il y a quelque chose de plus. Et c'est là où, justement, le bien à cause de la nature humaine. Vous voyez, si je ne regardais que la personne, je dirais le bien commun, c'est l'œuvre de tous. Donc, il est plus grand que pour tel individu, parce que c'est l'œuvre de tous. Si je regarde la nature, alors c'est autre chose. Parce qu'il y a dans la nature des virtualités que je ne connais pas. Je les connais quand elles sont en acte. Mais je ne les connais pas, moi. Comme individu. Parce que, comme individu, j'ai développé certaines virtualités, mais pas tous. Tandis que le bien commun est gardien de la nature humaine, de telle communauté humaine. Et il y a dans la nature humaine cette habitude virtualité de sa nature qui s'actue. Si c'est virtualité de la nature ne s'actue pas, l'individu ne peut savoir. Ce qui fait comprendre qu'il y a dans le bien commun quelque chose qui dépasse toujours le fruit. Vous voyez, les scolastiques avaient cette formule que je trouve assez juste. Finis effectus. C'est très très curieux d'unir les deux. L'effet n'est jamais fin. Et pourtant on dit finis effectus. Mais on maintient fin. Si on maintient fin, on maintient qu'il y a dans le bien quelque chose qui polarise, qui maintient l'espérance. Le bien commun n'était que ce que les individus ont fait. Il n'y aurait pas d'espérance. L'espérance, au plan humain, au plan politique, un état jeune qui pousse. Quoi qu'on dise, en Europe, on est devant un vieux pays. Je me souviens, c'était vers les années 35, il y avait des Canadiens qui étaient au Saulgeois, qui avaient passé 4 ans. Alors, en partant, mais très gentiment, ils ont dit, vite, vite qu'on s'en aille, parce qu'on en a assez de ces vieux pays. Ça traduit assez bien la jeunesse d'un pays, c'est qu'on croit encore au bien commun. On pourra faire ensemble des choses bien plus belles. On pourra ensemble arriver à quelque chose. Vous voyez, développer toutes les virtualités de l'homme. Alors ça, c'est pas encore fait. Développer les virtualités de l'homme. Un pays vieux, dont la majorité d'âge devient quelque chose d'assez fort. C'est un pays dans lequel il n'y a plus d'espérance. Je parle au point de vue politique. Il n'y a plus d'espérance. On a besoin de rajeunir ça pour donner l'espérance. Voyez, c'est pour ça que c'est tellement difficile de préciser le bien commun. Je crois qu'on ne peut le préciser que par rapport à la nature et pas par rapport à la personne. Alors là, évidemment, ça va en sens inverse de tout ce qu'on dit aujourd'hui, du moins de tout ce qu'on voit aujourd'hui comme réflexion. Et c'est pour ça que le bien commun est quelque chose qui reste très très caché. Et c'est la virtualité de la nature humaine. Créer un climat qui permette ces éclosions. Et il faut être quelquefois génial pour comprendre ce climat qui permettra ces éclosions. Ça, c'est le bien commun. Ça ne se vend pas, le bien commun. Oh, on est bien dans ce pays, c'est merveilleux. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi qu'on va dans tel pays, je suis mal à l'aise, ça va pas. Et dans tel autre pays, c'est extraordinaire, on est chez soi. Mais c'est vrai pour une petite communauté religieuse, ou pour une grosse communauté religieuse, c'est vrai. Mais c'est vrai même pour une communauté humaine. C'est vrai pour telle ou telle famille. Vous voyez, alors c'est ça le bien commun, c'est l'ouverture vers un développement humain qu'on annonce prophétiquement, vers lequel on tend, et qui est en nous. Et c'est ça qui rajeunit un pays, parce que ça lui redonne l'espérance. C'est source d'espérance, le bien commun. Et donc source de progrès, d'aller en avant. Autrement, c'est plus le bien commun. Le Zen, c'est quelque chose. Pour un grec, le Zen. Demain, je serai plus grand. Ben, vous dites ça jusqu'à un certain âge. Hein. Arrivé à un certain âge, je ne dirai pas demain, je serai plus grand. Peut-être que demain, je continuerai de vivre, oui. Mais alors, on prend une canne pour continuer de vivre. Et c'est très significatif, parce que ce qu'est l'individu, l'état l'est. C'est forcé. Et l'âge dominant d'un pays, il y a quelque chose. Il n'y a plus de natalité dans un pays, ou une baisse de natalité qui fait que le pays vieillit et ne se rajeunit plus. Eh vous pouvez être sûr que le bien commun dégringole. Parce qu'il y a plus cette espèce d'élan. Et c'est très nature. Ça repose sur la nature humaine, le bien commun. Et le bien, exactement comme la communauté. La communauté repose sur la communauté. La personne est là pour, je dirais, confirmer la chose. Confirmer et trouver à l'intérieur de ce bien commun son propre bien, sa zone de liberté. Mais ce n'est pas le bien commun. Quand la zone de liberté des individus est trop grande, le bien commun disparaît.
Et non.
nature humaine assez forte. Si je suis maladif, c'est différent, parce que je dépends des hôpitaux, je dépends de la technique, je dépends de l'art, je dépends de... Bon, alors c'est pas... Mais si on a un peu de vigueur naturelle, on dépasse tout ça. Et la nature humaine change beaucoup, hein, surtout dans ce qu'elle a de spirituel. Alors, un chef d'État, c'est celui qui incarne le bien commun. Vous voyez, alors, il y a le bien commun, il y a les lois et il y a le chef. Il incarne un peu comme une cause exemplaire. Et c'est la fragilité d'un État démocratique, c'est qu'il n'y a plus d'incarnation du bien commun. Parce que le président de la République, c'est maigre comme incarnation du bien commun. Oui, parce qu'il pense plus aux élections qu'au bien commun. Alors les élections, c'est pas le bien commun, hein. Alors il pense plus à ça. Et les élections pénètrent alors dans le point de vue du bien commun, ce qui est très très mauvais, parce que ça devient uniquement une flatterie populaire, pas politique. On flatte un gouvernement et la division des partis qui devient telle, il n'y a plus de point de vue du bien commun. Il y a un bien commun d'un parti qui n'est pas le bien commun, c'est politique, puisque c'est un parti. Alors, vous voyez la destruction du bien commun, il faudrait noter, et ça ce serait très intéressant, noter tout ce qui vient détruire le bien commun. Et en voyant tout ce qui détruit le bien commun, on peut comprendre la complexité du bien commun. Alors la dernière question, vous voyez, c'est la question très délicate, au point de vue politique, au point de vue réflexion philosophique. Dans quelle mesure y a-t-il un principe propre politique, le bien commun? On est au niveau politique, donc on est au niveau du devenir. Si l'homme n'avait pas de devenir, vous voyez que la famille n'existerait pas. On ne peut pas sortir des entrailles maternelles en ayant 2 mètres de grande de taille. Impossible. Tu as bien fait la chose. Alors on voit très bien qu'il y a un devenir énorme de l'homme. Et ça, ça reste de devenir depuis le moment de l'embryon jusqu'à la mort, en passant par l'acmé, le sommet, le haut plateau. Le point de vue politique, comme le point de vue de la famille, mais diversement de la famille, c'est parce qu'il y a un devenir. Et c'est à l'intérieur de ce devenir que j'essaie d'établir des lois et que le bien commun donne un sens à ce devenir en vue du bien vivre, en vue de l'épanouissement plénier d'un individu et du citoyen. Et tous les éléments sont là. Alors voyez, comme c'est le devenir, c'est ça qui est très intéressant. Il y a quelque chose d'analogue, je dis bien d'analogue, avec le vivant. Le vivant qui découvre sa finalité. Mais la finalité propre de la nature humaine, de l'être humain en tant qu'esprit, l'adoration, la contemplation, au plan religieux, le point de vue de l'amour d'amitié. L'amour d'amitié n'est pas totalement étranger au bien commun, puisque le bien commun doit favoriser de vraies amitiés comme empêcher de fausses amitiés. au niveau vie. Et il est source du conditionnement. Conditionnement substantiel. Le corps ne détermine pas l'acte humain. Mais le corps conditionne l'acte humain. Radicalement, substantiellement. Je ne peux pas vivre en faisant abstraction du corps. Le corps ne me détermine pas. Donc, et dans les situations limites, le corps arrive à, non plus seulement à conditionner, mais à déterminer. Dans une situation limite. Alors, je me demande si entre éthique personnelle et éthique politique, il n'y aurait pas des analogies très semblables à voir. De sorte que le bien commun est bien principe, est bien fin, mais une fin très crueuse, qui est toujours liée au conditionnement. Alors, c'est une fin dans l'ordre du devenir. Dans l'ordre du devenir, dans la mesure où dans le devenir il y a une fin. C'est pas une fin purement spirituelle. C'est pas la fin de l'homme comme tel. C'est la fin de l'homme qui veut atteindre une vie. Épanoui. C'est sûr, l'homme est conditionné par le point de vue communautaire, par le point de vue politique. Et donc dans cet ordre-là, voyez, c'est pour ça que c'est une finalité très particulière, parce qu'elle est liée au conditionnement. Et c'est pour ça qu'elle varie, parce qu'elle est liée au conditionnement. Un jeune état, un vieil état, c'est pas la même chose. Le conditionnement est différent. Le conditionnement du corps est différent pour un gosse qui vient de naître, pour un vieillard, pour quelqu'un qui est un sportif. Le conditionnement est très différent. Ça varie. Eh bien, il y a la même chose, bien commun. C'est pas un principe tout fait. C'est pas une finalité. Ça varie. Suivant l'état de l'état. Suivant sa manière de se développer. C'est pour ça que c'est si délicat. Mais on ne peut pas réduire le bien commun à un conditionnement. On ne peut pas dire que le bien commun est un principe séparé. Non, puisqu'il est commun. Il est immanent. Il est immanent à cause du conditionnement. Et dans le conditionnement est toujours immanent. Jamais séparé. Toujours immanent. Et c'est une fin immanente à la communauté. Fin parce que le bien commun a toujours quelque chose qui transcende l'individu, qui transcende la collectivité de fait, d'un facteur dynamisant, comme on dirait aujourd'hui, parce qu'il donne le point de vue de la finalité. Alors il y a sûrement des quantités de questions. On va tarder trop parce que c'est pas. Mais n'hésitez pas à les écrire. Et s'il y en a beaucoup, on refera une autre fois un petit séminaire, ou comme aujourd'hui, une journée de réflexion. Parce que je crois que c'est important pour nous d'essayer d'avoir des idées un peu nettes. Pas des définitions, parce qu'il n'y en a pas au sens rigoureux. Vous ne pouvez pas définir une finalité. Vous ne pouvez pas définir le bien commun, mais le voir que c'est par rapport à la nature humaine, ça c'est très très important. Et le développement de la nature humaine. Et le déclin de la nature humaine.